La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous, Florence Vanquali, pasteur de l'Église évangélique libre de Toulouse, pour cette dernière méditation avant l'été. Et j'aimerais partager avec vous une réflexion sur un texte biblique de l'Ancien Testament qui évoque un rendez-vous avec Dieu. Oui, Dieu nous a créés pour nous aimer, alors il nous rejoint et il nous parle. Mais comment cela se passe-t-il? Quelles sont les conditions d'un rendez-vous avec Dieu? La Bible nous donne bien des exemples de ces rendez-vous divins dans quasiment toutes ses pages. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur l'un des plus anciens dans le livre de la Genèse. Pour situer un petit peu plus le cadre historique et géographique, nous sommes quasiment 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'est de la Méditerranée, quand le fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, Jacob, doit fuir de chez lui à Beersheba. Il fuit car son frère le déteste à mort. Il faut dire que Jacob a usurpé son héritage avec force, manipulation et mensonge. Jacob s'enfuit donc à Haran, le village de sa mère. Et donc je lirai dans le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant l'échelle et disait à Jacob : « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas et je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit « Vraiment? Le Seigneur est dans ce lieu-ci, mais je ne le savais pas. » Il eut peur et il déclara « Comme ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Beth-El, ce qui veut dire « maison de Dieu » en hébreu. Auparavant, le nom de la localité était Luz. Jacob prononça ensuite ce vœu. « Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. » Et c'est à lui que je donnerai le dixième de tout ce qu'il m'accordera. » Dieu se révèle à Jacob dans un rêve qui tient plus de la vision-révélation que de l'imaginaire pur de Jacob. Cette échelle qui relie le ciel à la terre souligne de façon imagée et symbolique la relation entre le monde spirituel et notre monde terrestre. Dieu est en lien avec nous, il s'implique dans notre vie, il reçoit des informations, il s'engage dans notre quotidien. Cette implication, il la prouve par ses promesses à Job, qui reprennent en fait les mêmes promesses qu'à Abraham. Faire de sa descendance un peuple, qui habitera dans un territoire, un pays, dans le but de vivre une relation avec Dieu si riche, qu'elle fera du bien à l'entourage, qu'elle sera une bénédiction pour les nations. Et en filigrane de toutes ces promesses, il y a cette promesse d'une relation avec Dieu, d'une proximité de Dieu, quand Dieu dit « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. » Abraham, son fils Isaac et maintenant le petit-fils Jacob reçoivent cette promesse de Dieu et la portent jusqu'à la création du peuple d'Israël qui commencera à partir des 12 fils de Jacob. Le premier enseignement que cette histoire nous donne, c'est que Dieu est un Dieu de promesses. Et quand il se révèle, vous pouvez vérifier dans les pages de la Bible, quand Dieu se révèle 9 fois sur 10, c'est pour promettre, pour offrir, pour évoquer un avenir plein d'espoir et de possibilités, pour encourager et pour soutenir. Dieu est un Dieu de promesses. Et contrairement à certains, il tient ses promesses. La suite du récit le montrera, Jacob effectivement, alors bien des années plus tard, mais va revenir sur cette terre, il va avoir des enfants, il va voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir. Et puis, à chaque fois que Dieu fait des promesses, on le voit. Elles sont réalisées dans l'histoire d'Israël. Mais Dieu ne fait pas que des promesses aux personnages de la Bible. Il n'est pas au bout de ses promesses. Il y en a encore pour nous. Tout au long de l'histoire biblique, ces promesses vont se répéter, oui, mais elles vont aussi se préciser et en quelque sorte s'allonger jusqu'à nous rejoindre. C'est le Christ qui porte pour nous toutes les promesses de Dieu. Par lui qui nous réconcilie avec Dieu, Dieu nous promet de vivre avec nous, de faire de nous son peuple bien-aimé, un peuple identifié maintenant non par les gènes, mais par la foi, dans le but de vivre non pas sur une terre, mais dans un monde entier de justice et de paix. En attendant la réalisation complète de ses promesses, Dieu nous donne une vocation dans le prolongement de ce qu'il avait donné à Abraham et sa descendance, transmettre l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Un autre aspect sur lequel le texte insiste, c'est le côté ordinaire du lieu. Nous sommes là sur le bord de la route, plus ou moins dans le désert, loin des ornements d'un temple de l'époque. Près de la route, de nuit, un homme qui dort. Ça ne fait pas très sacré. Pourtant, Dieu s'y révèle. Il habite cet endroit et ce moment. Pour Dieu, rien n'est profane. Il peut se révéler n'importe où et n'importe quand, car il est Dieu. Il n'est pas contenu par des murs ou des protocoles. Dieu est libre et il est présent partout. Cette liberté de Dieu impressionne Jacob. Quoi ? Dieu était là et je ne le savais pas. Ça paraît un petit peu naïf. Nous savons bien que Dieu est présent partout. Nous savons bien qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Pourtant, ne méprisons pas trop Jacob. Nous aussi, nous avons notre idée sur les lieux ordinaires, profanes, où nous n'imaginons pas Dieu se révéler. Est-ce que c'est dans le bus, dans une réunion de travail ou dans une réunion de famille pendant les vacances? Est-ce que c'est à l'école ou en sortie avec des amis? Aucun lieu, aucun moment, aucune occasion ne peut mettre Dieu dehors. Il est toujours là. Et nous ne le savons pas. Ou alors, nous oublions que Dieu est là. Un des défis réguliers du croyant, c'est de prendre conscience, à nouveau, toujours à nouveau, que Dieu est présent partout et tout le temps. Pas seulement au culte ou à la messe, pas seulement quand on chante ou qu'on prie, pas seulement quand on est avec d'autres chrétiens. Tout le temps et partout. Plus nous en prenons conscience, plus nous pouvons ressentir cette présence de Dieu et recevoir ce que Dieu veut nous dire. Mais au-delà du côté ordinaire du rendez-vous, ce qui est le plus surprenant, c'est de voir à qui Dieu se révèle. Jacob. Rappelons-nous qui est Jacob. Jacob, à ce moment-là de l'histoire, est un manipulateur au caractère douteux qui n'a pas hésité à se déguiser pour s'accaparer l'héritage, la bénédiction qui était due à son frère aîné. Il a usurpé l'héritage, il a trompé son père. À ce moment-là, il est en fuite. Il est tellement dans une situation précaire qu'il a préféré passer la nuit dehors que de chercher hospitalité à Luz, qui est une grande ville tout près de là où il est. Jacob est isolé, vulnérable. la scène hein, le montre bien, tout seul dans la nuit, plutôt en danger. Et plus tard d'ailleurs, dans son vœu, Jacob demandera à Dieu de le protéger et de prendre soin de lui. C'est dans cette situation-là, dans cette solitude, dans cette vulnérabilité et dans cette situation où Jacob est quand même assez coupable, c'est dans ce moment-là que Dieu se révèle. C'est tellement Dieu ça. C'est tellement Dieu. Tout le monde peut investir sur quelqu'un qui est au top de sa forme, mais Dieu, lui, vient à nous, même quand nous sommes tout en bas, même quand nous sommes à notre désavantage. Ce secours immérité, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. Visible ici, dans cette rencontre, visible de manière bien plus glorieuse en Christ, en Jésus, qui offre son amour, non pas d'abord aux bien portants, mais aux malades, à ceux qui ont besoin de lui, à ceux qui sont pécheurs faillibles, défigurés, défigurants, à ceux qui sont coupables. C'est à eux que Jésus offre son amour, son pardon, encore aujourd'hui. Dieu nous rejoint. Qui que nous soyons, il nous parle, il nous tend la main. Et alors, que se passe-t-il ensuite? Jacob réagit en trois temps. Après la surprise, la peur, hein, la peur qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, la peur, la crainte de Dieu qui traduit le côté impressionnant. Quand on voit Dieu se révéler, on est impressionné, peut-être pas terrifié, mais vraiment impressionné parce que ce n'est pas un être habituel qui se révèle, c'est un Dieu aux dimensions surnaturelles qui vient nous interpeller. Donc après sa surprise et sa peur, son côté impressionné, Jacob dresse une pierre en mémoire de cette rencontre. Il donne aussi un nom à ce lieu, c'était une pratique courante à l'époque, hein, vous le retrouverez dans les autres pages de l'Ancien Testament, et il appelle ce lieu la maison de Dieu, Bethel, parce que Dieu est présent ici, il se révèle, il habite ce lieu. Et après avoir dressé une pierre, après avoir donné un nom, Jacob répond à la promesse de Dieu par une promesse de sa part, une promesse sous forme de vœu. Oui, si Dieu fait tout ça et que je reviens sain et sauf, alors d'accord, il sera mon Dieu et je lui offrirai 10% de mes biens. Notez que Jacob, qui jusque-là était plutôt un escroc, se met à devenir généreux, hein, il est prêt à offrir à Dieu une part de ses biens. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'on peut retirer de la réponse de Jacob, un mot sur ce vœu. Le vœu peut être étonnant. Certains y voient une réponse très positive, sous forme de promesse, une façon de répondre à la promesse de Dieu comme on souscrirait à un contrat en reprenant les termes, oui d'accord, si toutes les conditions qui ont été énoncées jusque-là sont remplies, alors moi aussi je m'engage à, etc., etc. D'autres interprètes y voient une petite négociation, une petite résurgence du caractère douteux de Jacob, comme s'il ne faisait pas confiance à Dieu. Hein. Du style, attendons de voir ce que Dieu va faire, et puis si effectivement il prouve que ses promesses sont solides, peut-être que j'envisagerai de le considérer comme quelqu'un d'intéressant et que j'en ferai mon Dieu. C'est très difficile de trancher, en fait. Dans le texte, il y a une ambiguïté. Mais en fait, même si les intentions de Jacob ne sont pas tout à fait droites, admettons, en réalité, ça ne change rien. Dieu n'attend pas que nous ayons tout réglé pour faire route avec nous. Nous le savons, il nous prend avec nos ambiguïtés et nos ambivalences. Il est très rare que nous répondions aux promesses de Dieu avec un cœur totalement pur, avec des intentions innocente et sainte. Mais souvent, il y aura des motivations positives et puis plein de petites motivations secondaires qui viennent entacher notre réponse. Et pourtant, Dieu nous prend comme cela, avec nos ambiguïtés et nos ambivalences. Alors que la réponse de Jacob soit ambiguë ou pas, en fait, ce qui compte, c'est que c'est une réponse. Et une réponse qui compte deux aspects essentiels: la mémoire et l'engagement. Alors nos rendez-vous avec Dieu appellent une réponse, hein, une réponse de notre part. Parfois on l'oublie, parfois on vit l'expérience et puis hop, on passe à autre chose. Mais les rendez-vous que nous avons avec Dieu appellent une réponse de notre part. Les promesses qu'il nous adresse, les déclarations d'amour qu'il nous donne appellent une réponse. Alors une des réponses classiques, très visibles, très claires, c'est le baptême. Un geste visible qui montre, plus ou moins au début du chemin de foi, que oui, nous avons rencontré Dieu personnellement et que nous voulons le suivre malgré nos ambivalences. Hein, malgré tout, on se lance en comptant sur les promesses de Dieu. Mais dans notre cheminement, il y aura bien d'autres rendez-vous avec Dieu. Des rendez-vous grandioses, presque mystiques, qui ressemblent un peu au rendez-vous de Jacob. Mais il y aura aussi peut-être des rendez-vous plus ordinaires. Par exemple, les cultes, des textes bibliques qu'on lit à la maison, des discussions avec un ami ou des prises de conscience. Tout cela, ce sont des rendez-vous ordinaires, mais des rendez-vous avec Dieu, où Dieu nous parle, nous déclare quelque chose, nous promet quelque chose, nous interpelle. Que fait-on de ce que nous vivons dans ces rendez-vous ? Alors, loin de moi l'idée de vous rajouter la pression de la performance, comme s'il fallait gravir des échelons, comme s'il fallait toujours aller plus loin, comme s'il fallait capitaliser tous nos moments avec Dieu, bien sûr. Cela dit, il est essentiel de laisser nos temps avec Dieu avoir un impact sur notre vie. Sans parler de performance, hein, vraiment. Mais quel retentissement donnons-nous ou laissons-nous à ces rendez-vous avec Dieu ? Et je crois que cette question, elle est particulièrement pertinente aujourd'hui parce que beaucoup d'offres existent. Nous consommons des contenus. Alors des contenus médiatiques, des expériences, hein, sans cesse, on accumule, hein, on voit, on écoute, on lit quelque chose, on aime ou pas, et puis on passe à autre chose. On est comme baigné, infusé spirituellement, et même si ça peut avoir du bon, ça peut rester superficiel, ce n'est pas suffisant. Certains connaissent par exemple par cœur des centaines de versets, de chants, certains n'écoutent que des choses spirituelles et pourtant, ils n'ont pas mûri spirituellement depuis des années. C'est comme s'ils absorbaient mais qu'ils ne digéraient pas ce qu'ils recevaient. Hein, l'expression qui me vient à l'esprit c'est « ça rentre par une oreille et puis ça sort par l'autre ». Sans être un remède miracle, la démarche de Jacob peut nous inspirer. D'abord, il y a le temps pour faire mémoire. Faire mémoire, même si ça vient juste d'arriver. Et ça, ça peut être par exemple écrire dans un journal nos réflexions, notre prière, ou bien prolonger ce que nous avons reçu dans une petite réponse à Dieu, même courte, hein, une petite prière. « Ah oui, Seigneur, voilà, je viens de lire ça, et ben, aide-moi à, ou j'aimerais, voilà. » Dieu peut faire beaucoup de choses à partir de ces petites réponses de notre part. Donc il y a le temps de la mémoire et puis, pour aller plus loin, il y a le temps de l'engagement. Où l'on se demande comment ce qui vient d'être vécu peut changer notre vision des choses ou notre comportement. Là aussi, hein, bon, la réflexion, elle peut durer un petit peu. On peut noter, on peut juste le garder en tête, le méditer. On peut en parler avec un proche. Mais l'idée, c'est de laisser la parole qui a été entendue, le message qui a été reçu, impacter notre vie quotidienne, notre vie de foi. Au lieu de voguer passivement, de moment en moment, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace, un temps, pour l'impact de ce que Dieu nous donne. Alors, il arrive qu'on soit un petit peu sec, c'est vrai, qu'on ait l'impression de ne rien pouvoir retirer de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a entendu. Et ce n'est pas si grave, ça arrive à tout le monde, moi aussi. Hein. Mais je suis convaincue qu'intégrer un petit peu plus dans notre pratique spirituelle cette démarche de mémoire et d'engagement, même si parfois ça semble artificiel, intégrer cette dimension donc de mémoire et d'engagement nous aidera à ne pas rater les moments à fort potentiel, à ne pas rater ce que Dieu nous transmet et qui donnera peut-être des fruits importants dans notre vie qui nous conduiront peut-être à des orientations essentielles. Tout lieu, tout moment, tout rendez-vous avec Dieu, si ordinaire soit-il, peut s'illuminer d'une révélation et d'une promesse. Le tout, c'est que nous puissions le recevoir. Alors que Dieu, par son Esprit, nous aide, nous apprenne à recevoir ce qu'il nous transmet par sa présence et sa parole.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai